Jean-Claude Raspiajas, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir à l'occasion de ce livre qui vient juste de paraître aux éditions des Équateurs, La France à la carte, où, à la suite de deux précédents livres, l'un autour des routiers, le suivant autour des bateliers, vous continuez votre exploration à la fois des modes de transport et des façons de voyager, avec cette histoire de France au travers à la fois des cartes et puis surtout de l'usage qu'on en a eu, de la façon dont on les a inventées. Et puis, pour ce qui est, on va dire, des 25 dernières années, de la façon très profonde dont a changé notre rapport aux cartes, et que ce changement du support n'est pas du tout anodin, puisqu'on peut, on y reviendra évidemment, considérer que c'est aussi un changement dans le rapport à l'espace, dans le rapport à la ville et à la circulation au monde. Alors, vous faites le choix, au travers de ce livre, de faire le récit. Alors, entre autres, évidemment, au travers des deux institutions les plus connues autour du monde de la cartographie française, que sont Michelin d'un côté et puis l'IGN, l'Institut Géographique National, de l'autre, justement, de faire ce récit, que vous commencez par ce grand changement qui est finalement l'invention du pneu. C'est ce qui va tout changer, c'est à la fin du 19e, c'est le pneu. Et qui, comme ça, ne paraît pas forcément comme une invention décisive dans l'histoire de l'humanité. Mais finalement, c'est presque aussi important que la roue, même si la roue est relativement nécessaire aux pneus.
C'est pas tout à fait faux. Je vois que vous l'avez bien lu. Oui, au commencement de cette histoire de carte routière, hein, on précise bien que c'est
les cartes routières.
Oui, au commencement, et le pneu. Moi, j'avais pas conscience de ça quand j'ai commencé à m'intéresser à ça. Ce qui m'intéressait, c'était comment est-ce qu'on avait réussi à cadastrer les routes, comment ça s'était passé. Et quand j'ai découvert l'existence du pneu, la réalité de comment c'est arrivé, tout est parti de là. Et s'il n'y a pas le pneu, il n'y a pas les routes et il n'y a pas nos évasions tout par-delà. Alors, le pneu, il faut bien préciser, le pneu, il existait avant le pneu, c'est-à-dire qu'il existait sous forme de roue. Ensuite, il a existé sous forme de pneus collés aux jantes, de pneus pleins. Mais l'invention décisive, révolutionnaire, c'est de rouler sur de l'air. Et à partir du moment où on roule sur de l'air, tout va changer et ça va être une explosion tout de suite dans les mobilités, dans les changements de vie. Et tout le XXe siècle a dépendu de ce boyau à air.
Avec cette dimension que vous racontez, qui est assez passionnante, c'est que on est sans cesse dans un lien entre des inventions industrielles et des instruments de promotion de ces inventions pour les rendre désirables. Donc là, vous dites, il y a effectivement deux pneus au début qui se font concurrence, le plein et puis sur l'air. Et donc, pour les départager, si l'on veut, en gros, on peut considérer que le pneu sur air, globalement, c'est Michelin, même si ce n'était pas le seul, c'est le grand promoteur du pneu sur air, c'est Michelin, et puis d'autres pour le pneu plein. Donc, on va imaginer des courses qui, finalement, auront, au-delà de l'intérêt sportif, surtout pour but de faire valoir les mérites techniques de ces différentes inventions.
Alors c'est ça, comme la roue existait depuis longtemps, comme on avait inventé le pneu plein, et comme on était vraiment dans la démesure, on s'est pris de passion pour le vélocipède, et on ne lésinait pas sur les moyens, donc étaient organisées des courses complètement folles. La plus importante est celle de 1891, qui est Paris-Brest-Paris, 1200 km sans étape. Et sans changement de monture. Alors les montures de l'époque, c'est des vieilles bécanes, enfin c'est pas des vieilles, c'est des toutes nouvelles bécanes qui font 21 kilos, il n'y a pas de dérailleur, il y a à peine une petite lampe devant vacillante qui marche plus ou moins, et les gaillards qui s'exercent à ça partent en veste, pantalon, tout juste ils n'ont pas la cravate, ils ont une casquette sur le chef et... Hardy Petit, vas-y. Et cette course, qui est une course évidemment mythique, enfin, c'était une course folle, quoi. 1200 km, faut quand même imaginer ce que c'était. Pas de diététicien, hein, d'accord, pas de diététicien.
Mais souvent une consommation d'alcool sur le chemin.
En partie, oui, en partie. Et les Michelin s'inscrivent. Alors, ils viennent de trouver qu'on pouvait rouler sur de l'air, et ils décident d'aligner un de leurs coureurs, qui au départ ne veut pas. Personne ne croit à leur invention. On ne peut pas rouler sur de l'air, c'est n'importe quoi. Donc, ils vont prendre un coureur qui va s'aligner contre les autres. Voilà, et ils sont un nombre considérable. Et ce Charles Théron va gagner la course des 1200 km avec quand même quelques difficultés, parce qu'évidemment, sur 1200 km sans s'arrêter, il s'est arrêté une fois, il a pris une poire, un verre d'eau, il s'est arrêté un quart d'heure et il est reparti. Et le favori, lui, a roupillé pendant 3 heures, et il a tout perdu. Voilà, qui lui était sur pneu plein. Donc il arrive vainqueur à Paris, et là, tout de suite, les Michelin, tout de suite, lancent un prospectus pour dire voilà, c'est une révolution. Non seulement on peut rouler sur l'air, mais on peut gagner, et vous voyez que c'est la preuve. Et les choses s'enchaînent, c'est-à-dire que l'année suivante, en 1892, ils organisent, les Michelin, une course qu'on va appeler la course au clou, Elle s'appelle pas comme ça à l'origine, elle s'appelait comme ça à l'arrivée, qui est Paris-Clermont-Ferrand, et il pose deux principes, que des amateurs, et il faut qu'ils aient tous des pneus Michelin à air. D'accord. Mais ils ont un concurrent qui leur en veut beaucoup, qui est Dunlop, qui décide d'aligner en douce, sans le leur dire, deux coureurs professionnels avec des pneus pleins. Stupéfaction et colère des Michelin, qui décide, sans rien dire à personne, qu'à trois endroits du parcours, ils vont mettre une centaine de clous sur le chemin pour que tout le monde crève. Voilà. Or, les pneus pleins, il fallait plusieurs heures pour les changer. Le manuel technique pour changer les pneus, c'était 60 pages. Or, les pneus Michelin, en 10 minutes, un quart d'heure, on pouvait les changer. Donc, tout le monde crève. Et les Michelin, évidemment, font la preuve qu'on peut changer très vite. Sauf que l'histoire s'arrête pas là. Le premier qui arrive à Clermont-Ferrand est un de ces coureurs professionnels avec le pneu plein. Donc, lui, il est disqualifié, il n'y a pas de truc. Et donc, là, ils apportent la preuve qu'en toutes circonstances, y compris quand il y a des clous, on peut rouler sur des pneus à air.
Oui, et ça, on le verra aussi au moment de l'automobile. C'est-à-dire que ce caractère, disons que le fair play n'est pas au centre de l'initiative commerciale et économique. Alors, justement, donc, l'autre bascule, évidemment, c'est donc, le vélocipède, on ne s'en rend pas forcément compte aujourd'hui, mais pour le coup, a été l'autre révolution de la mobilité, une mobilité individuelle, après celle de la mobilité collective qui était le chemin de fer au milieu du 19e. Et l'autre révolution qui arrive derrière, c'est évidemment la voiture. Et la voiture, finalement, à 10 ou 15 ans d'intervalle, les Michelin reproduisent ce qu'ils ont fait avec le vélo, c'est-à-dire des courses promotionnelles pour valoriser là les pneus et les voitures.
Alors, c'est même pas eux qui l'organisent. C'est-à-dire à partir du moment où on découvre qu'on peut rouler sur de l'air, alors personne n'y croit. Quand il gagne la course Paris-Brest-Paris, André Michelin dit tu verras, dit-il à son frère, tu verras que dans 10 ans, ils y viendront tous. Et il n'a pas fallu attendre 10 ans. En quelques années, tout le monde s'est mis à la chambre à air. La question se posait, mais est-ce qu'on est capable, passant du vélo avec un homme dessus, est-ce qu'on est capable de mettre, on peut rouler sur de l'air avec des automobiles qui commençaient à démarrer, donc des charges beaucoup plus lourdes, et donc ils vont faire la preuve sur la course Paris-Bordeaux-Paris, où ils sont les seuls à s'aligner avec leurs pneus à air, et ils partent avec trois voitures, il y en a deux qui n'arrivent même pas au départ, qui n'arrivent même pas à Paris pour partir, et ils ont une voiture à eux qu'on va appeler l'éclair, parce qu'elle n'arrête pas de zigzaguer, et personne, clairement, parmi les ouvriers, ne veut la conduire en disant c'est les patrons qui se débrouilleront. Donc les patrons prennent le départ, et ils n'arrêtent pas de zigzaguer, si bien qu'André Michelin dira de cette voiture, elle allait au fossé comme le cochon à la truffe. Voilà. Et ils arrivent bon dernier, mais vraiment bon dernier, hors délai. Donc, c'est les perdants, et en réalité, c'est les triomphateurs. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à prouver qu'on pouvait faire 1200 km à nouveau dans une voiture avec des pneus pleins. Et ce que je voudrais dire, c'est que ça se passe en 1895. Quand ils arrivent à Bordeaux, les premiers, pas les Michelin, quand ils arrivent premiers, on s'aperçoit que l'automobile peut aller plus vite que le vélo. On en est là, hein. On en est là. Et donc, si vous voulez, les historiens débattent souvent de savoir quand a commencé le XXe siècle. Eh bien, le XXe siècle, de mon point de vue, c'est ce que je soutiens, il a commencé à Bordeaux, un mercredi, le 12 juin 1895, quand il a été établi que l'automobile pouvait aller plus vite que le vélo.
Sachant que 1895, c'est l'invention d'un autre objet qui vous est extrêmement cher, qui est le cinéma. Donc, c'est la même année inventé le cinéma.
Mais c'est plus que ça. C'est 1895, c'est vraiment la naissance du XXe siècle, puisque à Lyon, en effet, les frères Lumière inventent le cinématographe. Et à 800 mètres de là, il y a un jeune canu qui s'appelle Marius Berlier et qui invente le moteur du poids lourd. Alors maintenant, essayez d'imaginer ce qu'aurait été le XXe siècle si on n'avait pas eu des pneus sur air, si on n'avait pas eu de poids lourd et si on n'avait pas eu le cinématographe. Ça aurait été quoi, le XXe siècle?
On n'en aurait pas voulu.
Bon, en tout cas, le XXe siècle, sachez-le, répétez-le, a démarré ici, à Bordeaux. Voilà.
Et alors, il a démarré à Bordeaux, mais jusqu'à un certain point, l'aventure automobile n'a pas fini de s'interrompre, mais elle a connu une des limites de ce qu'on décrivait là sur ces courses un peu folles, avec ce qui a été appelé là aussi, a posteriori, la course à la mort, qui était normalement prévu d'être un Paris-Bordeaux-Madrid, excusez-moi, et qui finalement va s'interrompre
ici,
parce que trop de morts. Alors, sur la route.
Alors c'est 1903, Paris, donc Paris, Bordeaux, Madrid, et c'est vraiment, ça passe pour la course du siècle, vraiment. C'est, et puis là, on atteint des sommes, des vitesses assez folles, puisqu'on arrive à des moyennes de plus de 100 km/h sur des routes dont il faut, mettez-vous bien dans l'esprit que quand on dit route, vous n'imaginez pas les routes que vous avez dans l'esprit. C'est vraiment tout à fait autre chose. C'est des routes bombées, c'est rempli de débris, c'est rempli de gens qui traversent, d'animaux, enfin. Et puis il y a des nuages de poussière considérables. Enfin bon, c'est une aventure folle. Et d'ailleurs, vous voyez, ils sont équipés comme des scaphandriers. Enfin, c'est, ils ont des pelisses, ils ont des masques de scaphandriers. On ne sait pas où on va. C'est de la folie totale. Et quand ils arrivent à Bordeaux, enfin ceux qui arrivent à Bordeaux, alors sur le parcours, c'est une folie absolue. À Bordeaux, on estime qu'il y a 200 000 personnes qui les attendent. Et c'est une étape. Hein. Paris-Bordeaux-Madrid, c'est qu'une étape. Et il y a un reporter de la Gironde qui fait le trajet. Qui va jusqu'à Libourne les précéder, et lui il estime qu'il y aurait 20 000 personnes, donc une pure folie. Et quand on arrive à, le premier qui arrive à Bordeaux, c'est Marcel Renault, et c'est Louis Renault, pardon, et qui ne sait pas que son frère s'est tué à Poitiers. Donc il y a eu une dizaine de morts, et parmi les morts, pas mal de passants, enfin de badauds, quoi. Donc le gouvernement décide d'interdire ça. On arrête parce que d'un seul coup, on se dit, mais c'est quoi cette folie? On commence à avoir très très peur de ça. De toute façon, dans les villages, on a peur de l'arrivée d'une automobile, hein. Donc là, c'est vraiment on y va à fond. Et il y a des petits malins de compétiteurs qui disent, on va aller en douce jusqu'à Hendaye, et à partir d'Hendaye, on reprend la folie. Et là, le gouvernement espagnol met le haut là en disant, non, stop, on arrête. Donc, et le danger principal, c'était évidemment la vitesse, la mécanique, mais les nuages de poussière, si bien que va naître une ligue contre la poussière, dans laquelle les Michelin seront très actifs.
Oui, parce que ce que vous décrivez très bien, c'est qu'effectivement, il va se passer deux choses. C'est à la fois le développement de cette circulation routière va faire prendre conscience de l'état du réseau, qui, effectivement, un réseau qui, sur les longs parcours, a été complètement délaissé, du fait, entre autres, du chemin de fer, qui est là donc depuis plus d'un demi-siècle. Et l'autre effet, qui va aussi avoir une conséquence michelinienne, c'est que ça permet d'aller dans des endroits dans lesquels on n'allait pas faire du tourisme, mais que les contraintes techniques que vous évoquez dans le livre, qui fait que ces véhicules, il faut sans cesse changer les pneus, leur mettre de l'essence, etc., et rien n'existe.
Non, rien n'existe, c'est-à-dire que tout est à déchiffrer, à défricher.
Et à déchiffrer, d'ailleurs.
Et aussi à déchiffrer, oui. Et les Michelin vont s'employer, mais avec un vrai génie. C'est-à-dire qu'ils mettent au point le pneu, ils vont lancer en 1900 le guide rouge, le guide Michelin. 1900, il y a 3000 automobiles. Ils distribuent gratuitement ce guide à 35 000 exemplaires. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'idée. Et un guide qui change tous les ans. Donc ils ont déjà prévu que ça va vraiment se développer et qu'on va y aller à fond. Ils commencent à faire leur carte routière. Sachez quand même qu'ils commencent, la première carte routière, elle est autour de 1905. La vraie carte routière, la première qu'ils vont commercialiser, c'est 1910. Et en 3 ans, ils cartographient toute la France. D'accord ? Et au même moment, en 1908, ils montent le bureau des itinéraires qui va devenir le bureau du tourisme. C'est-à-dire qu'il suffit à l'époque, parce que sortir à l'époque en automobile d'une ville, c'est un enfer. C'est-à-dire que les routes sont défoncées, il n'y a aucune signalisation, on ne sait absolument pas où on va, on ne comprend pas où on va.
Oui, au premier carrefour, on est perdu.
Ah, dès le premier carrefour, exactement, on est perdu. Il n'y a pas de signalisation, et puis il n'y a pas de... Donc ils vont monter ce bureau où il suffira de téléphoner, de dire, voilà, je voudrais aller de Paris à Bordeaux, par où je passe, comment je m'y prends et tout. Et là, il y a un bataillon de gratte-papier qui regarde les cartes et qui envoie par courrier à celui qui demande le parcours très 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 précis avec tous les obstacles, mais tout est bien indiqué, si bien que sur certains parcours, ils peuvent envoyer jusqu'à 100 feuilles à celui qui en a fait la demande.
Gracieusement,
toujours gracieusement. Et ça va avoir un succès considérable, puisqu'en 1925, ils ont 155 000 demandes, et il y a 120 employés Michelin qui font les itinéraires, dont beaucoup sont d'ailleurs licenciés en histoire et en géographie. Et c'est de là que va naître le guide vert. Le guide vert sera l'émanation de ça. Donc, ils font ça et ils mènent en même temps une campagne pour la signalisation. Donc, ils vont monter une pétition nationale en exigeant que les routes soient signalisées. Ils vont utiliser un coup de génie, comme ils en ont le secret. Ils vont faire une pétition. Ils vont la présenter au président de la République, Armand Falière, au deuxième salon de l'aéronautique. Ils vont lui présenter ce que lui croit être le livre d'or, il parafle le truc, il s'en va, et dès le lendemain dans les journaux, parce que les pouvoirs publics résistaient. Et dès le lendemain dans les journaux, grand placard de publicité de Michelin en disant « Faites comme le président de la République, signez la pétition », et ils vont avoir 200 000 signatures. Donc ils vont aller au ministère de l'Intérieur avec des estafettes, porter leurs signatures, et les huissiers vont s'y opposer, et là, traits de génie, ils vont se mettre à hurler « Laissez passer la volonté populaire !» Et le gouvernement va céder. Et ils avaient tellement bien préparé leur coup qu'à partir du moment où le gouvernement donne l'autorisation, sur les 36 000 communes de France, Michelin va fournir gratuitement à 30 000 communes tous les panneaux de signalisation. Mais ça devient une foire d'empoigne. C'est-à-dire que c'est aussi de la publicité déguisée à l'époque. Donc tous les constructeurs, à l'époque, il y a une centaine de constructeurs automobiles, hein, et tous les fabricants de pneus, parce qu'il n'y a pas que les Michelin sur le coup, tout le monde met des panneaux dans tous les sens. Donc ça devient une pagaille. Il y a de quoi lire maintenant sur les routes. Et c'est eux qui vont comment dire, poser la signalisation. Et surtout, à chaque fois qu'un constructeur ou quelqu'un qui met un panneau, il met « don de machin ». Voilà. Et vous avez même Émile Zola qui se met sur le coup. Émile Zola se dit « Ah, mais pas mal, parce que Émile Zola vient de se convertir à la bicyclette, pour des raisons, extra-conjugales. »
Et de santé.
Et de santé, oui. c'était pour rejoindre sa maîtresse, qui s'était mis à... Et c'est devenu un forcené de la bicyclette. Et vraiment, il y a un très beau livre qui est paru l'an dernier qui s'appelle « Zola à bicyclette » et qui est une pure merveille qui raconte ça. Et donc, Émile Zola se met dans le coup, met deux panneaux indicateurs, et il a écrit « Don de monsieur Émile Zola ».
Et donc ça c'est fascinant parce que on ne s'imagine pas que finalement, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, même s'il y a des normes qui rentrent en ligne de compte, toute la signalétique routière, elle est privée. En fait, c'est une initiative privée, validée par l'État, mais une initiative privée, ce qui nous paraîtrait maintenant un peu incongru, et qui après, il se passera autre chose, mais on y reviendra évidemment au moment des 30 Glorieuses.
Oui, c'est bien qu'après la guerre. Alors vraiment, tout le monde, vous aviez des panneaux Citroën, vous aviez des panneaux Renault, vous aviez des panneaux Dunlop, vous aviez des panneaux du Touring Club de France, de l'Automobile Club de France, vous aviez des panneaux Émile Zola. Et après la guerre, donc en 1946, le gouvernement dit c'est terminé, maintenant ça revient à l'État, donc c'est fini. Mais Michelin va continuer et va vendre cette fois-ci ces panneaux jusque dans les années 70, où là, l'État décide d'arrêter parce que c'est des panneaux très dangereux. C'est-à-dire que, par exemple, vous aviez une des grandes spécificités de Michelin, qui sont les bornes d'angle, vous savez, avec les côtés qui étaient... Ça faisait 500 kilos. Donc, si vous aviez le malheur d'aller vous emplafonner dans un Michelin, c'était... Donc là, on a enlevé tous les panneaux Michelin. Donc, jusqu'en les années 70, ils ont occupé le terrain. Mais surtout, au-delà de ça, c'est eux qui ont établi la signalétique qu'on a conservée aujourd'hui.
Et avec justement ce que vous évoquiez aussi, c'est-à-dire que, à la fois, si on revient sur les premiers moments de l'automobile, les véhicules sont dangereux, les itinéraires sont incertains, c'est pour ça qu'il faut le bureau d'itinéraire, et puis surtout, il y a la crainte permanente de ce qu'on va trouver sur le chemin. Et c'est là où il faut faire intervenir le guide sur son versant hôtelier, c'est-à-dire, effectivement, il existe un tourisme qui est souvent localisé à des grands sites très identifiés depuis le 19e, les Gorges du Tarn ou le Mont-Saint-Michel ou ce type de choses. Mais quand vous prenez votre voiture et que vous arrivez à Moulins ou à Libourne, c'est pas prévu comme des lieux touristiques. Et donc là, on a toujours le peur de soit de l'addition salée, soit des conditions de réception qui sont quand même, faut en convenir, parfois incertaines.
Oui, alors ça, le guide rouge est un manuel absolument extraordinaire. Et en même temps, c'est une sorte de livre d'histoire. Si vous lisez les guides rouges à travers le temps, vous voyez l'évolution justement des critères d'hébergement, de ce qu'on y consomme. C'est-à-dire que il y a toute une nomenclature dans les guides rouges qui sont tout à fait passionnants à regarder. Et notamment, vous avez par exemple sur certaines auberges, il y a écrit entre parenthèses VNC. Et VNC, ça veut dire vin non compris. Bon. Mais une des grandes bagarres du guide rouge, et on l'a un peu oublié aujourd'hui, c'est contre les punaises de lit.
Alors déjà.
Alors les punaises de lit, c'est quand même un gros problème, parce que Victor Hugo, dans ses récits de voyage, s'en plaignait beaucoup. Il a beaucoup écrit dans ses récits de voyage sur les punaises de lit. Et je ne résiste pas au plaisir de vous lire deux passages. Alors soyez rassurés, ça n'est pas de la coquetterie d'auteur, ce sont des citations. En août 1901. André Michelin demande aux femmes leur concours contre les punaises de lit dans les hôtels, et vous allez voir comment dans la presse il écrit ceci. Donc c'est à destination des femmes. Introduisez les merveilles de votre corps délicat dans un lit que le guide mal renseigné vous recommande, et d'où horreur. Vous vous échappez couverte de petites lentilles brunes, aussi désagréablement odorantes qu'anthropophages. Donc là, il faut prévenir Michelin sans tarder, qui va dans le prochain guide dénoncer. Là. Et puis, toujours de la même époque, le Léon Auchert, qui n'est pas n'importe qui, puisque c'est le vice-président du Touring Club de France, membre fondateur de l'Automobile Club de France, le futur promoteur des syndicats d'initiative, excusez du peu, lui s'en prend au mauvais état de l'hôtellerie, et il écrit ceci, qui est absolument délicieux, je vous le lis. « Les sous-préfectures du Nord, de l'Est et de l'Ouest ont la punaise la blatte et le grillon. La supériorité du midi s'affirme par l'addition du cafard au précédent. Quant aux araignées, elles font partie inhérente du matériel des hôtels et on se fait un devoir sacré de respecter leur toile. Les souris ont également leur utilité. Elles sont préposées à la disparition des rognures, épluchures et autres détritus qui couvrent le sol et elles évitent ainsi des frais inutiles de balayage. Et quand les morceaux à supprimer sont trop gros, le rat est tout indiqué.
Alors, c'est là qu'on voit aussi, bon, même si il y a ce style très, très amusant, très, très vivant, même si c'est dans une exagération, ça dénote quand même probablement, comme vous le disiez, d'un point de vue historique, d'un certain état de ce qu'était l'hôtellerie à un moment donné et qui a dû se moderniser suite à cette évolution du tourisme.
Oui, c'était la grande bataille de Michelin et de l'Automobile Club de France. Voilà, de s'occuper du bon état de l'hôtellerie. Et en effet, alors avec des singularités assez amusantes et qui font que c'est vraiment des livres d'histoire. C'est-à-dire que sur les premières préconisations du guide de 1900, il est bien indiqué qu'il recommande des hôtels où il y a une fosse pour nettoyer les voitures. Parce qu'à l'époque, c'est beaucoup les aristocrates qui se promènent. C'est un bien très très cher, l'automobile. Même le pneu est cher. Et ils ont des chauffeurs. Voilà. Et donc, quand ils arrivent le soir dans des auberges, eh ben, c'est aux chauffeurs de faire le boulot. Et ils portent d'ailleurs bien leur nom. Alors, c'est un nom qui vient évidemment de la vapeur, hein, chauffeur. Mais aussi, quand ils font des réparations le soir même, il leur arrive de se brûler. Et dans le guide rouge, il y a beaucoup de recommandations pour savoir comment soigner les bobos de la route. Dont, ça. Il y a aussi, indication aussi très historique, c'est qu'ils recommandent beaucoup, dans les guides entre 1900 et 1920, les hôtels où il y a un endroit pour développer les photographies. Mmh. Voilà. De la même façon, ils indiquent dans les premiers guides, il y a plus de recommandations de dépôts d'essence que d'hôtels. Ça veut dire quelque chose quand même, qui veut dire qu'il n'y a pas assez d'hôtels. Et les dépôts d'essence, c'est le boulanger, le mercier, le maréchal Ferrand. J'ai même trouvé à Quimper un arquebusier. chez qui on pouvait aller se fournir en essence, c'était des bidons de 5 litres. Hein. Voilà, c'était ça. Mais j'ai oublié depuis le début d'expliquer là dans cet entretien que le moteur principal au commencement était le pneu, mais au commencement sera le pneu. C'est-à-dire que tout l'engagement des Michelin, et Dieu sait s'ils se sont engagés et s'ils ont été des génies visionnaires, n'a qu'un seul but, c'est de vendre du pneu. Oui. Voilà. Et tout ça est soumis à la vente des pneus. Et d'ailleurs, ils vont inventer un truc publicitaire absolument génial qui est le bibendum. Et le bibendum, c'est quoi? C'est un corps de pneu. Voilà.
Alors ça, c'est vraiment extraordinaire parce que vous le racontez. Il y a plusieurs singularités. D'abord, c'est l'une des figures les plus durables de l'incarnation publicitaire d'une marque. Et elle est par ailleurs mondiale puisque la marque Michelin est une marque connue dans le monde entier. Et c'est un cas quand même très particulier de présence publicitaire qui fait qu'il y a un attachement individuel, collectif et au-delà des Français à cette figure du bibendum qui par ailleurs n'est pas pour autant intangible, c'est-à-dire qu'elle va évoluer considérablement. Totalement. Elle commence avec des lorgnons et puis elle finit, plus elle avance, plus elle rajeunit.
C'est ça. De nous. Okay. Elle naît en 1898 et elle n'est pas ex nihilo. C'est-à-dire que en réalité, les frères Michelin vont à un salon de l'automobile à Lyon très vite dans le début de l'automobile et un des frères voit juste à l'entrée du stand Michelin un entassement de pneus blancs. Alors, ils n'étaient pas blancs, mais comme c'était un produit de luxe, ils étaient vendus dans une enveloppe de soie blanche. Voilà. Et donc, il dit à son frère, mais regarde, tu vois, si on ajoutait des bras et puis un visage, ça ferait un personnage. Et ils repartent avec cette idée. Et ils soumettent ça à quelques dessinateurs et arrive Marius Rossillon, qui se fait appeler Ogallo, qui est un des grands dessinateurs de l'époque. Alors, petite précision régionale, Ogallo est enterré en Dordogne et il a longtemps habité à Beynac et c'est une des grandes figures. Et lui, il arrive avec un personnage pentagruélique qu'il avait essayé de vendre pour un brasseur allemand, donc en Allemagne, et qui lui avait été refusé. Donc il revient, il monte ses croquis, puis il dit « j'ai ça, mais ça m'a été refusé », et les Michelin tout de suite disent « ah ben ça nous intéresse, travaillez sur ça, essayez d'y mettre des pneus, débrouillez-vous avec ça ». Et quand il revient, il a inventé bibendum. Et en effet, au début, bibendum, il ressemble aux clients qui achètent des pneus de l'époque, donc c'est des bourgeois très replets, c'est des aristos, donc il a un lorgnon, il fume le cigare, il est très prospère, il a des grosses bagues au doigt, et voilà. Et il domine tous les autres. Et dans la première grande affiche Bibendum, on le voit à table, il a une coupe de champagne, cigare, tout ça, et on voit ses concurrents, à l'époque, c'est Dunlop et Continental, qui sont écrasés, qui n'en peuvent plus, et lui, il triomphe. Voilà. Et au fil du temps, en effet, il va subir des cures d'amaigrissement. C'est le Dorian Gray du bitume. Il n'arrête pas de rajeunir. Il n'arrête pas. Il est de plus en plus énergique, et tout ça. Et en effet, il est adapté au pays. Par exemple, au Japon, Bibendum, qui est connu, ressemble à un sumo. En Grèce, il ressemble au Colosse de Rhodes. Et ça n'arrête pas. Et il n'a pas vraiment changé. Enfin, il a changé. Et il est totalement flexible, puisqu'il est en caoutchouc. Il se prête à tout. Il fait tous les exercices possibles. Alors, il y a eu des petites déclinaisons. À un moment, ils lui ont collé une femme qui était Madame Bibendum, qui ressemblait à Monsieur Bibendum. Ils ont eu un petit Bibendum qui ressemblait à Bibendum. Mais tout ça, c'était des enfantillages. Ce qui demeurait, c'était évidemment Bibendum, qui est partout, qui évidemment appartient à la mythologie de la culture populaire, au-delà de l'objet publicitaire. Mais si bien que... c'est aujourd'hui le logo le plus connu au monde. Et en 2000, il y a eu un jury dans le monde entier de publicitaires qui ont élu quel était le logo du XXe siècle, et c'est tombé sur Bibendum.
Oui, parce que vous dites tout ça est à la fois toujours conçu pour vendre des pneus. Il y a cet effet d'incarnation en Bibendum, et il y a cet effet de déclinaison quasiment à l'infini des supports publicitaires. En fonction des modes des saisons, c'est-à-dire que ça sera les cendriers à un moment, les porte-clés à un autre,
les buvards,
et il y a même eu
des préservatifs en même temps, c'est en caoutchouc. Caoutchouc, c'est toujours du caoutchouc.
On ne change pas on change pas vraiment de métier,
voilà, c'est ça.
Pour les sorties de route. Ils ont
décliné beaucoup de choses, oui.
Ce qui aboutit aujourd'hui, d'ailleurs, cet attachement, ce que vous racontez là, dans un chapitre très, très amusant du livre, effectivement, à ces grandes ventes aux enchères, où aussi bien le guide 1900, qui donc était certes tiré à 35 000, on pensait à un moment donné qu'il n'en restait plus que 7, et surtout qui était offert et non pas vendu, et attire des milliers de gens tous les ans dans les environs de Clermont-Ferrand.
Oui, alors ça, c'est une histoire absolument extraordinaire. Bon, d'abord, il y a tout un tas de collectionneurs partout. Le Michelin, c'est une peuplade très étrange dans laquelle je me suis introduit, et j'ai fait des rencontres assez formidables, parce que les collectionneurs sont des... Et j'en viens à la vente aux enchères, mais c'est lié évidemment à l'histoire des collectionneurs. Alors, c'est des grands névrosés. Je suis pas psychiatre, hein, mais c'est eux-mêmes qui se décrivent en disant qu'ils sont des grands névrosés, mais ils ajoutent toujours en disant on ne fait de mal à personne. Voilà. Donc, ils collectionnent plein de choses. Et il y a 7 familles de collectionneurs. Vous avez les carteux, vous avez les geekdistes, vous avez les bimblotiers, vous avez les gadgeteurs, vous avez les plaquistes, vous avez les caoutchouteurs, et vous avez bien sûr les copoclephiles.
Évidemment.
Les copoclephiles, tout le monde sait que ce sont évidemment les collectionneurs de porte-clés. Voilà. Et donc, toute cette famille, et il y a une aristocratie au milieu de ces collectionneurs, c'est-à-dire que les carteux regardent avec un peu de mépris et d'arrogance les autres, parce que eux, c'est l'aristocratie, c'est la carte. Voilà. Donc, et donc, tous ces gens s'entendent à merveille, ils sont dans une association très amusante et très active, et donc ils vont de brocante en brocante, et l'un des mémorialistes de ce monde-là, qui s'appelle Pierre-Gabriel Gonzalez, qui est un journaliste de Clermont-Ferrand, a écrit 5-6 livres sur toute cette histoire, et un jour, il a eu l'idée de proposer à un maître priseur de Clermont-Ferrand d'organiser une vente aux enchères des objets Michelin. Et le commissaire priseur tombait des nues, enfin, puis il avait pas envie d'y aller, enfin, c'est pas mon monde, moi je suis dans l'art, mais pas... Et il s'est laissé convaincre. Et ils ont fait leur première vente aux enchères d'objets Michelin en 2000. Mais pour attirer même les collectionneurs, il fallait un objet rare. Et l'objet rare, le Graal des collectionneurs, c'est le guide rouge 1900, voilà, qui est introuvable. Et en effet, on pensait qu'il en restait 7 sur les 35 000. Donc ils ont fait une annonce pendant 3 mois, ils ont cherché, et ils sentaient bien que s'ils n'avaient pas le guide rouge, ça servait à rien, ça ressemblait à une brocante. Voilà. C'était pas un peu. Ils ont cherché, ils ont fait des annonces partout, puis rien ne venait. Et puis un jour, quelqu'un à Clermont-Ferrand, dans une des ventes aux enchères du maître priseur, s'est pointé et a dit « mais moi j'en ai un qui était à 50 mètres de la vente aux enchères ». Donc ils l'ont mis en vente. Et cette vente, elle est restée historique. Parce que là, plein de gens sont venus. Donc il y avait plein d'objets Michelin. Il y avait même des pneus de Formule 1. Il y avait des trucs pour les copoclephiles, tout ça. Bon, on avait tout, mais on avait le guide rouge 1900. Et à ce moment-là, il y a 2 acheteurs qui se sont distingués, enfin qui d'un seul coup ont émergé, qui étaient Pierre Troisgros, le restaurateur de Rouen, le restaurateur étoilé, et un assureur de Bourges. Et d'un seul coup, alors la mise aux enchères, ils savaient pas trop à combien démarrer, donc ils ont commencé à 750 euros, mais sans être très sûr du truc. Et là, les deux sont montés en puissance et ça s'est terminé à 15 000 euros. Voilà. Alors là, stupéfaction. Et là, le maître priseur qui était sceptique dit à Pierre-Gabriel Gonzalez, maintenant, les Français vont fouiller dans leur grenier. Et alors, c'est parti. L'assureur de Bourges, qui a été battu, parce que c'est Trois Gros qui a obtenu le truc, avec, en plus, pendant la vente aux enchères, un soutien du public pour Trois Gros, qui était un peu comme Rému, qui était très excentrique et tout ça. Et l'autre était beaucoup plus réservé. Et d'un seul coup, le public a pris parti pour Trois Gros. Il fallait absolument qu'il ait, et pas que ce soit cet assureur qu'il ait. Donc Trois Gros, là, on retrouve des guides 1900. On ne va pas arrêter d'en trouver. Et ils sont assez forts pour démêler les faussaires des autres. Mais on en trouve maintenant beaucoup. Donc, deuxième année, on refait la vente aux enchères. L'assureur de Bourges revient. Pas de bol, il se trouve face à un groupe hôtelier qui a les moyens. Et ça monte, et ça monte, et ça monte. Et ça finit à 22 000 euros. Et l'assureur de Bourges est encore battu. Et comme dit le maître priseur, ce qu'il y a de terrible avec l'assureur de Bourges, c'est qu'il est resté un peu anonyme. Et personne ne se rend compte que sans lui... Sans son obstination, jamais on serait arrivé à ça. Et à la troisième année, ils remettent des guides. Je ne vais pas vous faire les 25 ans. Hein. Mais à la troisième année, ils en remettent. Et le maître priseur commence à devenir un peu enivré par l'histoire. Et il dit à la presse, « Ah, mais parti comme c'est parti, vous verrez, dans 20 ans, on arrivera à 60 000 euros. » Et on s'est dit, il a perdu la raison. Enfin, il est devenu fou. Eh bien, il ne faudra pas 20 ans. Au bout de 12 ans, on est arrivé à 66 000 euros. Et ça n'arrête pas. Et ça n'arrête pas, mais ça n'est pas fini. C'est qu'il trouve dans ses raretés le Graal du Graal. Et le Graal du Graal, c'est le guide rouge de 1903 et 1904 qu'on appelle Grande Marge, astuce des Michelin. On dit vraiment au début. Hein. Il donne un guide rouge avec des grandes marges. Alors, ils en distribuent assez peu en demandant aux grands hôtels et aux grands restaurants de les installer à l'entrée et que les clients mettent les recommandations, enfin, ce qu'ils avaient à dire. C'est bien, c'est pas bien. Voilà. Et à charge pour les hôteliers et les restaurateurs de les renvoyer à Clermont, et on tiendrait compte pour l'édition du guide rouge de l'année suivante de ce qui avait été dit. Sauf qu'évidemment, plein d'hôteliers ne les ont pas renvoyés. On les critiquait, donc ils les ont gardés pour eux. Donc, évidemment, on savait que c'était une rareté. Donc, arrive à ce moment-là le guide rouge de 1903, le premier, et là, ça flambe. Et c'est là on va arriver aux 60 000. Et cette vente aux enchères, qui a été beaucoup trustée, mais à juste titre par les grands hôteliers qui ont des collections de guides rouges, puisqu'elles ont fait leur renommée, devient un objet spéculatif. Il y a beaucoup de financiers qui spéculent, et notamment, il y en a un qui en a déjà acheté trois pour 80 000 euros, et on sait qu'il spécule là-dessus. Voilà. À partir d'un objet qui était gratuit et qui était renouvelé tous les ans.
C'est un peu comme on connaît comme ça des agendas ou des albums d'une certaine marque qui sont collectionnés. Et justement, pour revenir un peu avant d'en arriver au cœur de votre livre, qui est la question de la carte routière, et justement la question des guides, ce qui est assez étonnant, c'est que très tôt, il y a des guides pas forcément attendus, qui est dès la grande bascule, évidemment, c'est la Première Guerre mondiale. Et dès la sortie même de 1917, je crois, il existe des guides des champs de bataille de la Première Guerre mondiale et qui vont être édités jusqu'au milieu des années ou fin des années 20 et qui vont être un immense succès parce qu'il y a un tourisme de la Première Guerre mondiale qui s'installe.
Oui, là encore coup de génie, c'est-à-dire d'avoir imaginé qu'il y aurait un tourisme de mémoire, alors que quand même imaginer ce qu'est la France en 1917. Enfin, je veux dire, c'est un pays exsangue, c'est un pays décimé, c'est un pays ravagé, et eux pensent qu'il va y avoir. Et ils font ça, en effet, en 1917. Je rappelle que la guerre prend fin en 1918, et même pour une partie de la Première Guerre mondiale, en 1919, comme l'a rappelé Bertrand Tavernier dans l'un de ses films. Donc, ils vont faire, en effet, ça. Et il va y avoir une cinquantaine de déclinaisons. Donc, en effet, ce sont les guides des champs de bataille de 14-18, et qui vont durer jusque dans les années, en effet, ce que vous dites. Et ils vont recommencer au moment de la Deuxième Guerre mondiale, où là, à nouveau, ils vont refaire des guides des champs de bataille.
Ce qui fait qu'effectivement, que ce soit les guides ou les cartes, ce sont aussi des instruments d'histoire. Ce ne sont pas que voyager et décrire, c'est que quand on les conserve, quand on les collectionne, on se rend compte qu'on peut lire comme une archive et se rend compte que telle chose était à telle place et comment est-ce qu'on voyait le pays à tel moment.
Quand on passe du temps avec la peuplade des carteux, c'est tout à fait passionnant parce que d'abord, ils ont une collection folle de cartes et surtout, eux les ouvrent non pas comme des précis de géographie, mais à la fois comme des recueils de poésie, mais aussi et principalement comme des livres d'histoire. Et ils sont tout à fait passionnants quand ils vous montrent que quand on ouvre une carte, on voit l'histoire se déployer. Et par exemple, après les guerres, quand il vous montre les cartes Michelin de 1946, c'est tout à fait impressionnant quand vous regardez les cartes de Normandie de 1946. C'est plein de points rouges où il y a, dont la légende s'est détruite, il ne reste plus rien. Enfin bon. Et par exemple, ils vous disent, prenez la carte de la région de Marseille de 1950-1960, prenez-la aujourd'hui, vous verrez que tout a changé. Il y a Fos-sur-Mer, tout ce qui est le développement industriel autour de Marseille, on le lit dans les cartes routières. Mais aussi, c'est un instrument de poésie. C'est-à-dire que moi, j'ai fait le test un soir chez moi, j'ai pris l'atlas routier, je l'ai ouvert au hasard. Et le hasard a fait que je suis tombé sur une région que je ne connais absolument pas, qui était autour de Paris-le-Monial. Et là encore, je ne résiste pas au plaisir de vous dire que quand vous prenez une carte routière, vous avez quand même de sacrées surprises. Donc je ne connaissais pas cet endroit. Hein, c'est autour de Paris-le-Monial, carte Michelin. Et là, je découvre, je regarde de près, et là, je découvre des noms de villages, de bourgades. Et écoutez ça quand même. Je tombe sur des villages qui s'appellent les Raponas, les Alissans, les Vaillots, les Longes-Potenas, les Belots, les Droyers, le Turo-Jaune, la Bourbe, les Georgets. Je me dis, mais qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Et après, et toujours sur ce bout de carte, hein, je tombe sur Trézel, Chavroche, Chaugy, Thionne, Bouchardière, Civette, Chosnard. Si c'est pas de la poésie, c'est quoi ça? Et surtout, quand vous vous posez des questions sur l'origine de ces mots-là, vous voyez bien que se déploie toute une histoire de France. Ce n'est pas juste des toponymes. Et donc, c'est ça aussi, la carte routière. C'est ça.
Alors, justement... Qu'est-ce qui, pour vous, fait la singularité de la carte routière par rapport aux autres cartes? C'est-à-dire que Michelin n'invente ni le guide qui le précède, ni la carte. Et qu'est-ce qui fait justement cette force de la carte? Est-ce que c'est une question technique de la façon dont elle est réalisée? Est-ce que c'est lié à l'usage du fait que la voiture a marqué le XXe siècle? Pourquoi est-ce qu'on rêve devant ces cartes-là?
Parce que en plus de receler l'histoire de France, elle recèle votre propre histoire. La carte routière, elle raconte votre propre histoire, votre histoire personnelle, votre histoire familiale. À chaque fois que vous ouvrez une carte, forcément, vous y retrouvez un bout de votre passé, des évasions que vous avez faites, des vacances que vous avez passées, des parents qui déployaient la carte routière, des parents qui s'engueulaient autour de la carte routière, le grand classique des couples, que le GPS nous prive aujourd'hui de ça.
On peut s'engueuler avec le GPS.
Hein. Oui, mais...
Le retour est moins bon.
Et surtout, le responsable, c'est le GPS. Oui, donc, c'est un peu sot. Alors que c'est tellement facile de s'engueuler avec la personne à côté et puis de l'avoir sous la main pour le faire. Et non, ce qui se déploie, c'est ça. C'est votre propre histoire personnelle. Et surtout, la carte routière vous offre tout de suite des moyens d'évasion. Le GPS vous donne pas du tout. Le GPS, c'est il fonce. Voilà. Il vous donne l'axe principal. En plus, il vous prive de beaucoup de choses. Ce qui veut dire qu'en creux, ça définit la richesse de la carte routière. Le GPS, il ne vous donne pas l'origine et l'arrivée de votre voyage. Il vous condamne au pur présent de votre regard. C'est le moment où vous le regardez. D'accord ? Il brouille les étapes. Il ne conserve aucune trace durable de l'endroit où vous êtes passé. Il vous coupe du sens de l'orientation, puisque le sens de l'orientation qu'il définit, c'est celui que vous avez déjà, vous, il suit votre propre mouvement, et puis il arrase tout, et puis il vous offre pas des moyens d'évasion. Qu'est-ce qui fait que la carte routière, elle a marché? C'est que vous avez des grandes lignes rouges, mais vous avez aussi des routes jaunes, et vous avez les fameuses routes pittoresques, les routes vertes. Et ça, c'est quand vous déployez une carte routière, ce que vous déployez, c'est les chemins de votre propre liberté. Et vous êtes le maître du chemin que vous allez prendre.
Voilà. Oui, finalement, il y a plusieurs voyages possibles face à une carte, alors que le GPS, il y en a un seul.
Exactement. Mais pour répondre complètement à votre question, ce qui fait la singularité aussi d'une carte routière, c'est la déformation. C'est-à-dire, Michelin, par exemple, mais d'autres, parce qu'il y a eu d'autres éditeurs de cartes. Hein, c'est-à-dire, avant que Michelin n'arrive à s'imposer, il y avait une vingtaine d'éditeurs de cartes routières. Chacun y allait. Il y avait de Dion Bouton, il y avait le Touring Club, il y avait l'Automobile Club. Il y avait à Paris un libraire très important qui était le Mola de Paris et qui s'appelait Tarid. Et Tarid a fait des cartes routières pendant très longtemps. Et puis à un moment, Michelin a réussi son affaire. Par exemple, si vous prenez la carte traditionnelle de Michelin, qui est un peu le nombre d'or, c'est le 1 200 000, c'est-à-dire 1 cm sur la carte égale 2 km, vous voyez bien quelque chose qui ne va pas, quand vous y prenez attention, c'est l'épaisseur du tracé, par exemple, de la route rouge. Si vous la rapportez à l'échelle, mais une route nationale, elle fait 300-350 mètres de large, et non, voire parfois 1 km sur certaines routes. Alors ce qui se passe, c'est qu'à partir de l'échelle, eux vont déformer la carte, si bien, par exemple, que les cours d'eau sont réduits à rien, que les chemins de fer, les lignes de chemin de fer sont quasiment effacées et qu'en revanche, il y a une surreprésentation à l'échelle des routes et notamment des routes nationales. Voilà. Donc ça, c'est très important de le savoir. Donc ça s'appelle, étrangement, bon, déformation, ça je peux comprendre, mais l'autre terme du processus s'appelle la généralisation. Donc, voilà. Donc ça aussi, c'est encore une singularité de la carte routière par rapport à d'autres cartes géographiques.
Oui, qui ne cesse jamais de conserver son but initial, hein, qui est faire que les gens roulent sur les routes.
Absolument.
Et voyagent, que ce soit sur des routes rouges, vertes ou jaunes.
Toute la stratégie Michelin, elle est orientée vers un seul but, faut que ça roule.
Ouais.
Voilà, faut que ça roule.
Faut que les pneus s'usent.
Voilà.
Mais ce que vous racontez aussi, ce qui est très beau, c'est que vous avez plusieurs interviews avec des cartographes. Il y a aussi un moment où, dans l'histoire du XXe siècle, justement, ça rejoint un peu ce que vous évoquez là, les cartographes vont être confrontés à plusieurs difficultés. Et la première, finalement, c'est la surcharge. C'est-à-dire comment, puisqu'on arrive à une qualité de détail de l'information qu'on est capable de reproduire, laquelle on choisit, laquelle on soustrait, comment est-ce qu'on invente un lettrage. Et ça, c'est absolument passionnant, parce qu'on se rend compte qu'en fait, toutes ces décisions-là, ce sont des décisions qui sont signifiantes. C'est-à-dire qu'on oriente le voyage par la taille des lettres des villes, par exemple.
Oui, et puis des couleurs et tout ça. C'est un travail à la fois ingrat. Ceux qui le pratiquent, le métier de cartographe, sont absolument passionnés, sont d'une compétence totale. C'est 3 ans de formation. Longtemps, dans l'histoire de la cartographie, le cartographe avait le statut d'artiste. Il faut quand même se rendre compte de ça. Et en effet, le plus difficile à mettre sur une carte, le plus onéreux aussi pour les éditeurs de cartes routières, c'est les toponymes. Et de les placer, de les tracer, de les insérer. Et c'est un travail titanesque, vraiment titanesque. Et je fais un saut dans le temps. Aujourd'hui, évidemment, on fait des cartes avec des ordinateurs. Et les cartographes vous expliquent qu'encore aujourd'hui, alors que l'ordinateur fait la carte, il n'est pas capable, l'ordinateur, de placer tous les toponymes. C'est-à-dire qu'il arrive un moment où il les met les uns sur les autres. Et si vous regardez le travail de dentelle et d'orfèvre que font les cartographes pour placer les toponymes, c'est assez prodigieux. Et évidemment, le cas ultime, c'est la région parisienne. Comment vous placez tous ces toponymes tout en respectant la géographie, enfin, et donc ça, c'est un travail. Et ce que j'ai compris, mais en cours de route, c'est le cas de le dire, c'est à quel point le métier de cartographe est un métier inconnu, méconnus, et ce sont des hommes de l'ombre et qui sont absolument indispensables.
Oui, et que vous comparez au moins dans la façon dont s'exerçait le métier jusqu'au tournant des années 2000, véritablement à des moines copistes.
Absolument, oui, c'est ça. On les traitait de moines copistes, d'artistes de moines copistes. Ouais, ouais.
Parce que vous imaginez qu'ils dessinaient avec des stylos jusqu'à 1 mm sur des voilà dans des guides lignes pour tracer aussi bien les rivières que les courbes de niveau. Donc c'est vraiment
La première fois que je les ai vus, ils m'ont apporté tous les outils qu'ils utilisaient jusqu'au début des années 90, parce que là il y a une révolution dans le monde de la cartographie, puisque le métier de cartographe, figurez-vous, est amené à disparaître en réalité. Et tout ça s'est passé exactement en 2 ans. Je connais peu de métiers, mais je peux me tromper, je connais peu de métiers où tout a été changé en l'espace de 2 ans exactement. Tout se passe entre 1990 et 1992, quand les ordinateurs arrivent dans le monde de la cartographie. Et d'un seul coup, le travail des cartographes précédents, ceux qui faisaient ça à la main, donc un jour ils sont arrivés avec tous leurs outils, c'était tout à fait impressionnant avec quoi ils travaillaient, quoi. Et puis c'était à la loupe, c'était avec des comptes-fils, c'était avec des tire-lignes. Enfin, fallait voir ce qu'ils avaient comme matériel. Et d'un seul coup est arrivée l'informatique, et tous les cartographes à l'ancienne qui dessinaient à la main se sont retrouvés sans travail. C'est-à-dire qu'ils n'avaient plus la technique. Donc il a fallu qu'ils s'adaptent très très vite. Et par exemple, le directeur actuel de la cartographie chez Michelin, qui était un cartographe indépendant avant de rentrer chez Michelin, m'expliquait qu'il avait fait ses études à la fin des années 80, et qu'à l'Institut de géographie, il y avait au fond d'une salle un Macintosh qui traînait, et les profs disaient « il n'est pas exclu qu'un jour on fasse des cartes sur ordinateur, mais soyez tranquille, c'est pas demain la veille. » Et ben, en 2 ans, ça a été plié. Et aujourd'hui, si je dis que le métier de cartographe est amené à disparaître, c'est qu'une nouvelle catégorie de cartographes, ce sont des mutants qui sont en train de s'installer et qu'on appelle des géomaticiens. Voilà, et qui sont évidemment, c'est une contraction de géographes et d'informaticiens. Et là, il sort chaque année aujourd'hui par promotion 400 géomaticiens contre 20 cartographes. Donc on arrive vers la fin de la cartographie des cartographes traditionnels et qui va devenir en plus une sorte d'artisanat marginal. Et voilà.
Alors, Avançons dans ce point-là, puis après on reviendra un peu en arrière, mais justement, et ce que vous dites, et ce que disent les cartographes que vous interrogez, c'est que ce qui est passionnant, et ça on le sent particulièrement du côté de l'IGN, qui est sur une autre logique, parce que celle de Michelin, on l'a déroulée, on voit quel est son principe. L'IGN, elle vient d'un autre univers, d'un autre raisonnement, et dans son état actuel, avant d'en raconter l'histoire, mais ce que dit l'une des personnes qui y travaille, c'est que d'abord, on n'a quasiment jamais autant utilisé de cartes.
Ah, mais de toute façon, oui.
Les cartes sont absolument partout, sur tous les supports informatiques qu'on peut utiliser, il y en a partout.
Alors, et même dans notre vie quotidienne, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui face à un paradoxe un peu étrange. C'est-à-dire que jamais, dans l'histoire de l'humanité, jamais on a autant, chaque jour, consulté de cartes. Regardez la boîte magique que vous avez dans votre poche. Vous cherchez un boulanger qui n'est pas le votre habituel. Vous cherchez un cinéma. Vous cherchez un restaurant. Vous cherchez savoir si Mola est ouvert au moment où vous voulez y aller. Et ben, vous sortez Google Maps. Vous sortez ça. Or, jamais. Et on les consulte jusqu'à 4 ou 5 fois par jour, même sans s'en rendre compte. Mais le paradoxe, c'est que jamais on a aussi peu su déchiffrer une carte. C'est-à-dire qu'on en a perdu l'usage, c'est-à-dire qu'on en a perdu le moyen de connaissance. Et ça, c'est quand même très, très important. Je vous cite un chiffre pour que vous compreniez. L'application, aujourd'hui, via Michelin, qui sont les cartes Michelin. Alors, sachez juste une chose, que quand vous prenez l'application via Michelin, mais ça peut être vrai pour l'application des cartes IGN, hein, c'est pareil. Quand vous zoomez, vous avez 23 échelles de zoom. Considérable. C'est pour ça que moi, je n'oppose pas le GPS à la carte routière. Je fais un éloge de la carte routière, parce qu'en plus, elle est amenée à disparaître. Mais il faut garder le GPS. Le GPS est indispensable. De toute façon, on ne pourra plus vivre sans le GPS. Mais attention, le GPS a ses limites. Donc, vous avez 23 échelles différentes quand vous zoomez, qui arrivent de 15 bases de données. Bon. L'application via Michelin, ils ont 250 millions de visites par an. D'accord ? Google Maps, c'est 250 millions de visites par jour. D'accord. Michelin, c'est 20 cartographes aujourd'hui en Europe, dont 7 en France. Google Maps, c'est 17 000 cartographes, géomaticiens. Donc, vous voyez un peu les échelles, vous voyez un peu et même le côté massif, 250 millions de visites par jour, c'est énorme. Alors, pas en France, dans le monde entier, mais donc on a basculé dans une autre époque. Et
oui, dans laquelle finalement, c'est ce que dit quelqu'un de l'IGN aussi, la carte devient le bonus du GPS.
Oui.
C'est-à-dire que ça apporte des informations qui ne sont pas forcément présentes. Mais c'est dans ce sens-là que ça se passe. C'est-à-dire qu'on a le socle de navigation qui est numérique et on a, on va dire, une partie d'ailleurs plus orientée autour de la question du plaisir. Et celle où, paradoxalement, on revient presque à l'usage initial de la carte routière, qui est de se dire, là, il y a tel point touristique à voir, telle chose à voir. Et la carte a au moins une capacité de synthèse qui est plus forte, finalement, que la version numérique.
Mais c'est même un défi de survie pour ceux qui font des cartes routières. C'est un défi de survie. Je vous donne un chiffre, la carte de France Michelin. Je dis la carte de France Michelin parce que c'est elle qui a trusté le marché. À un moment, l'IGN était concurrente de Michelin. Il faisait aussi des cartes routières. Et il y a 20 ans, ils ont jeté l'éponge en disant, de toute façon, c'est pas la peine, c'est les meilleurs, ils savent faire. C'est ce que dit très très bien le cartographe actuel de chez Michelin. Il dit, quand on rentre chez Michelin et qu'on fait la carte routière, d'abord, il faut y rentrer avec humilité, parce qu'on arrive dans une histoire qui est plus grande que la vôtre. Et il dit surtout, quand on travaille sur la carte telle qu'elle est aujourd'hui, c'est un galet qui a été poli pendant plus de 120 ans par, justement, des artistes. Donc, voilà. Pourquoi je vous dis ça, là, votre question, c'était... Si vous vous en souvenez vous-même.
Je m'en souviens parfaitement. La question, c'est effectivement que c'était la carte comme adjonction
oui.
au numérique et non plus l'inverse. Mais ce qui rejoint aussi ce que vous dites là, c'est-à-dire que à la fois le galet est poli et en même temps, on est aussi confronté à une vitesse de modification de l'information qui fait que la durée du papier devient difficilement acceptable par rapport à la durée numérique. La hauteur d'un pont, la présence d'une canalisation de gaz, enfin tout ça... invalide pour partie le papier.
Oui et non. Il se trouve que, vous l'avez rappelé tout à l'heure, j'ai fait un livre sur le monde des routiers, donc je suis parti pendant des mois avec des routiers, à rouler avec eux. Et d'ailleurs, l'origine du livre, elle vient de discussions avec eux, c'est-à-dire que je me trouvais dans plusieurs situations où ils étaient en difficulté, ils suivaient leur GPS, ils ont 3 GPS, donc ça va, ils sont... Voilà. Mais à certains moments, ils se sont retrouvés en difficulté, ils ne trouvaient plus leur chemin, ça n'allait pas, les GPS se contredisaient, enfin, il y a des choses qui n'allaient pas, et tout le temps, ils prenaient la carte routière. Donc je m'étonnais. étonné. Je me disais, mais attendez, pourquoi vous prenez la carte routière? Et il disait, parce que c'est ça qui fait foi. C'est le juge de paix au dernier moment. C'est-à-dire, vraiment, on sait que là, sur la carte, il n'y aura pas d'erreur. On le sait. Voilà. C'est, voilà. Et c'est eux aussi qui m'avaient dit, mais vous savez, ils ajoutaient, on les change tous les deux ou trois ans. Je dis, vous changez tous les deux ou trois ans les routes, c'est les routes, quoi. Mais non, les routes, ça bouge, ça change, ça meurt, ça se prolonge, c'est modifié. Et donc, tous les deux ou trois ans, ils changent le truc. Et je reviens à la question initiale que j'avais abandonnée. C'est aujourd'hui un moment de survie pour les éditeurs de cartes routières. C'est qu'en effet, la valeur d'usage de la carte routière jusqu'à présent, qui était de vous informer et de vous permettre de choisir des options, ça n'est plus le cas, puisque le GPS aujourd'hui a même des accents combinatoires pour vous diriger. Les fameux tourner à droite, c'est pas le pire. Le pire, c'est faites demi-tour quand vous êtes sur le pont d'Aquitaine. Ce qui arrive, c'est qu'aujourd'hui, la carte doit être en effet une carte d'accompagnement. C'est une carte complémentaire, et donc aujourd'hui, elle a plus un intérêt touristique. Et donc aujourd'hui, les cartes routières, vous avez par exemple des cartes qui sortent en ce moment, qui sont sur les voyages en voiture et qui sont découpées dans les régions pour vous donner de très beaux tracés à suivre avec votre voiture. Vous retournez la carte et là vous avez ce qu'on appelle un QR code, et à l'intérieur de ce QR code, quand vous cliquez dessus, vous avez ce qu'on appelle un GPX, que connaissent très bien les randonneurs, et qui vous donne le détail très 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 précis de la route que vous pourrez suivre. Donc aujourd'hui, les cartes routières servent à définir les éléments touristiques ou d'évasion sur la route que le GPS vous a intimé l'ordre de suivre.
Donc, en fait, il faut sans cesse reconquérir sa propre liberté de voyage. Et dès lors que l'on suit les routes vertes, c'est le seul critère de ceux qui savent vraiment voyager, c'est qu'ils ne parcourent que les routes pittoresques et qu'ils essaient de faire des parcours uniquement sous ces cartes-là. Je voudrais qu'on revienne un peu, parce que vous évoquez, il y a un moment sur lequel on ne s'est pas attardé, qui est justement le moment de l'après-guerre, et qui est ce moment des Trente Glorieuses, qui est vraisemblablement, en termes à la fois de consommation routière, si l'on peut dire, et de consommation de cartes routières, une sorte d'âge d'or, si l'on peut appeler ça comme ça, parce que c'est à la fois le moment où la population française arrive directement, enfin massivement, vers l'automobile, avec un point d'ailleurs qui n'est pas forcément très connu, qui est qu'au moment où Citroën conçoit la 2CV, Citroën appartient à Michelin.
Absolument. Absolument, et le concepteur, enfin celui qui a eu l'idée de la 2CV était le patron de Michelin à l'époque. Alors, un chiffre pour bien comprendre ce qui s'est passé, c'est pas le nombre de véhicules que je vais vous sortir, c'est quand la 2CV arrive au salon d'automobile en 48. Donc le mot d'ordre c'était pas de luxe et pas de vitesse, pas de luxe. Voilà, c'est le truc. Il faut 5 ans pour en avoir une. 5 ans, parce que le délai d'attente, il faut 5 ans, parce qu'on imagine. Donc, il y a une explosion de toutes les voitures, de tous les constructeurs, tout le monde est sur les routes. Tous les prétextes sont bons pour prendre le volant, aller chez le boulanger, aller chez Mola, qui existe déjà, mais aussi bien aller jusqu'au bout de la France pour aller jusqu'à la Méditerranée ou dans les Alpes. Voilà. Tout est bon pour prendre sa bagnole. Voilà. Et c'est évidemment la civilisation de la bagnole. Autre chiffre, je veux dire, les routes telles qu'elles étaient définies au début du XXe siècle, c'est à peu près 400 000 km, mais tout confondu. Et aujourd'hui, on est à 1 million 2. Donc il a bien fallu un moment que les cartographes reportent ça. Et en effet, les Trente Glorieuses, c'est quand même le grand, grand, grand moment, avec la contrepartie, évidemment, que c'est aussi une hécatombe. C'est-à-dire que c'est un nombre de morts considérable. Ça va culminer dans les années 72-73. On arrive à 18 000 morts, c'est plus que la guerre d'Algérie, hein, à 18 000 morts par an. Et je vous parle pas des centaines de milliers de blessés. Il n'y a pas de limitation de vitesse, il n'y a pas d'airbag, on peut rouler bourré. C'est...
La liberté.
C'est la liberté. Roule ma poule.
Mais qui est aussi une culture qui est présente, même d'un point de vue populaire. D'abord parce qu'il y a des gens extrêmement célèbres qui vont mourir dans ces conditions-là, dont évidemment Albert Camus, dont je crois, vous le dites, certains membres de la famille Michelin.
Oui.
Et puis c'est aussi un certain nombre de films qui, alors que ce soit de façon ironique, avec le travelling de Godard dans Weekend, ou évidemment dans Les choses de la vie de Sauter, dans lequel effectivement l'accident de voiture devient presque un objet cinématographique en lui-même. Quoi.
Ah ben, la scène mythique, la séquence mythique de cinéma sur ça, c'est évidemment l'accident de Piccoli dans Les choses de la vie. Et pour l'avoir revu, et même au-delà du ralenti que propose Sauter quand il refait l'accident, ce qui est tout à fait formidable, c'est qu'au cours de cet accident, Sauter dans le fameux carrefour où Bobby Lapointe a calé, il a installé plein de panneaux qui n'existaient pas, enfin qu'il a rajouté spécialement, dont la borne d'angle Michelin. Et a posteriori, aujourd'hui, quand on regarde avec le recul, on s'est dit, mais c'est absolument formidable que cette séquence mythique d'un accident et qui est évidemment la figure contemporaine du destin, voilà, tel que aussi la route peut le réserver, il a tenu, sauté, à mettre des panneaux publicitaires, à jalonner, j'allais dire, le carrefour du destin, deux panneaux publicitaires, deux panneaux, pardon, indicateurs de l'époque, quoi, et dont la borne d'angle.
Avec une route qui symbolise ça, qui est donc la Nationale 7, et que vous avez reparcouru ou tenté de reparcourir, alors qui est assez, vous en faites un récit, il faut le dire, pas très enthousiasmant. On vous a pas senti très heureux de ce voyage, puisque c'est un mélange entre un univers d'abandon total et puis une tentative sans cesse reconduite de nostalgie de ce moment-là, puisque ce qui a permis la résolution de mai 68, c'est quand même vraisemblablement l'ouverture en juin 68 de l'A7.
Exactement. Alors, quand j'étais penché sur l'histoire des cartes routières, évidemment, je voyais bien cette montée en puissance, la force, et notamment de cet axe mythique des Trente Glorieuses, qui était la Nationale 7. Il se trouve que moi, la Nationale 7, je ne l'avais jamais prise. Je suis un gars du Sud-Ouest et je n'allais pas prendre la Nationale 7. Donc, à un moment, je me suis dit, mais cet axe glorieux des Trente Glorieuses, cette Nationale 7, à quoi ça ressemblait? Et je me suis dit, il faut que j'aille voir. Et je suis parti la tête farcie de la mythologie de la Nationale 7 que je ne connaissais pas. Donc évidemment, la chanson de traînée, beaucoup de livres sur la Nationale 7, du Paul Morand, de tout ça et tout ça, et évidemment des films et beaucoup de reportages télé, puisque c'était aussi un des grands marronniers médiatiques, c'était les embouteillages de la Nationale 7. Donc me voilà parti, la fleur au fusil, découvrant cette mythologie et pensant, croyant qu'elle était intacte. Et pas du tout. Pas du tout. Dès les premiers 100 km, je m'aperçois que ça va pas du tout, que c'est plus ça du tout, du tout, du tout. D'ailleurs, elle porte plus le nom National 7. Elle porte 13 noms différents dans son truc. Quand on regarde la carte routière, à plusieurs moments, elle disparaît. Elle est tronçonnée, elle n'existe plus. Elle n'existe plus. Et tous les vestiges considérables que portait la mythologie de National 7 ont disparu, se sont effondrés. Et ce qu'il en reste comme vestige est assez triste. Enfin, ça a été un voyage d'une grande désillusion que j'ai compensé en remontant par la route Napoléon, parce que je devais faire l'aller-retour. Et l'aller m'a largement suffi.
Oui, non, je repasse pas.
Je repasse pas là. C'est bon, j'ai donné. Et donc, je suis reparti. Mais sans le savoir à ce moment-là, j'ai pris la route Napoléon, qui est une pure merveille. Mais une beauté de paysage très très bien entretenue, et il n'y a personne parce qu'il y a des virages, voilà. Et je suis reparti par la Nationale 6, et après, en discutant avec des historiens de la Nationale 7, m'ont dit, mais c'est par là qu'on passait, c'était par la Nationale 6 qu'on passait, c'était là qu'on passait. Et Albert Camus se tue sur la Nationale 6.
Avec quand même une espèce de paradoxe fou qui dit aussi l'époque, qui est que il y a des associations très très amusantes qui, par exemple, reconstituent des faux embouteillages de National 7.
Absolument. Alors, un des grands historiens de National 7 est quelqu'un de très amusant qui s'appelle Thierry Dubois et qui fait des bandes dessinées sur l'histoire de la National 7 et qui sont très, très, très
documentées.
Et d'ailleurs, tout au long de ce qui reste de la National 7, on trouve partout des dessins de lui dans des troquets, de ce qui reste de bistrot et tout ça. Donc, il est présent là. Et Thierry Dubois a beaucoup parlé de ça. Et non seulement il en a parlé, il voyage avec des voitures anciennes. C'est un de ses grands plaisirs. Il prend très, très souvent la National 7 et c'est lui qui organise des reconstitutions des embouteillages de l'époque, alors notamment à Montélimar, à La Palisse, dans le Var, et ça a un succès considérable. Alors ils viennent avec des voitures anciennes, ils ont la panoplie de l'époque, même la maréchaussée sort les uniformes de naphtaline, joue aux gendarmes de Saint-Tropez, font semblant d'être furieux, et c'est absolument... Et alors c'est très très attendu, il y a un monde fou pour ces reconstitutions, et voilà, ça fait partie aujourd'hui du folklore très sympathique de cette Nationale 7, avec, évidemment, il ne faut pas prévenir, avec évidemment un bilan carbone qui est un peu lourd, parce que tous ces vieux engins, toutes ces vieilles voitures crachent énormément d'essence et qui en plus sont très mauvais et très voilà. Mais tout le monde participe de cette mythologie, mais évidemment cette nostalgie-là, elle dit quelque chose aussi de ce qui a, de ce qui n'existe plus.
Mais écoutez, merci beaucoup Jean-Claude Raspien-Jas de ce livre qui qui comporte cette anecdote, mais aussi plein d'autres, et surtout écrit avec une plume extrêmement vive, allègre, et c'est un très très grand plaisir de lecture.